Bonjour à toutes et à tous. L'émission que vous allez entendre maintenant est le résultat d'un projet réalisé dans le cadre d'un partenariat entre CFM et la Direction du Développement Culturel de la Ville de Montauban. C'est un projet financé dans le cadre du CUX, le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, qui doit permettre, par le biais de projets, de sensibiliser les participants à l'égalité hommes-femmes et à la lutte contre les discriminations. Il s'agira dans le cadre de ce projet de permettre aux Montalbanais de connaître l'offre culturelle de la ville en s'appuyant sur l'actualité des équipements, le pôle mémoire, le musée Ingres, le musée d'histoire naturelle, les salles de spectacle et la mémo. Il s'agit d'ateliers radio réalisés au sein même de la médiathèque de Montauban avec des jeunes et des moins jeunes grâce au soutien technique et humain de l'équipe de la mémo et de l'équipe de CFM. Vous allez donc entendre le résultat d'un atelier qui s'est réalisé sur un mercredi après-midi au sein même de la médiathèque de Montauban.
À la mémo, c'est l'atelier CFM Radio.
On s'est affairé tout au long de cet après-midi avec les jeunes. Alors, il y avait Amine, il y avait Olivia, il y avait Raphaël, il y a Mathias, Nolan, Yasmina, Hugo, Clément, Valentin et Fatoumata. Voilà, on s'y est mis à beaucoup hein, pour préparer cette émission. Certains sont partis en reportage, d'autres ont bossé sur des micro-trottoirs, certains ont réalisé ou vont réaliser des interviews. Alors on va parler de quoi ? Du côté du musée de la résistance et du combattant, on va parler de l'exposition La vie effacée, à la découverte des camps nazis. Du côté de la mémo, on va parler des ateliers contes bilingues. Et ça, on va le faire dans pas longtemps avec les jeunes qui sont avec nous. On va parler également dans cette émission, je ne sais plus comment ça s'appellera.
Alors, c'est le ciné-concert Tabou avec l'Orchestre des Passions.
Voilà. Et donc, voilà. On recevra Jean-Marc Andrieux.
Et
tout
on recevra
à l'heure.
Jean-Marc Andrieux.
Et puis, on s'intéressera aussi au Centre du Patrimoine, hein, le CIAP, le Centre d'Interprétation du Patrimoine. Avec nous, autour de la table également, si tu me piques mes papiers, j'y arriverai pas, Nolan, Olivia et Amine. Ça va, Amine ?
Oui.
T'es en place ?
Oui.
Olivia, tout va bien ?
Oui.
Est-ce que le micro est à la bonne hauteur ?
Oui.
Et Nolan ?
Oui.
Ça va bien ? Nolan, il a pas de micro. Si, vas-y.
Oui.
Demande à Aurélien si t'as un micro. Vas-y.
Ouais. Oui.
Ah oui, ça y est, t'as un micro. Bon, merci. Ben voilà. Cet après-midi, il y avait des contes à la mémo, des contes bilingues, un petit peu de musique, et puis on vous en dit plus dans un instant.
Un mercredi à la mémo, c'est l'atelier CFM, CFM Radio.
Lilywood and the Pricks.
À la mémo, c'est l'atelier CFM Radio.
On est bien en direct de la mémo, accueillis par Anne, Sarah Laroche et Bouchra Essadi. Bonjour et merci de nous accueillir.
Bonjour.
Bonjour.
C'est nous qui sommes ravis de vous accueillir. Oui, c'est un peu impressionnant d'ailleurs, parce qu'il y a quand même un peu de monde autour. Alors, il y a toujours beaucoup de monde à la mémo, parce que c'est quand même un lieu...
Le micro.
Il y a toujours, pas mal de monde à la mémo, parce que c'est un lieu qui est vivant, c'est un lieu d'échange, d'ouverture et de passage. Juste, je voulais dire que ce projet, c'est vraiment la première émission, donc là, nous aussi, on débute. Donc une fois par mois jusqu'en juin, ça se passera à la médiathèque. Peut-être qu'après, c'est un projet qui évoluera et qui se passera dans d'autres lieux culturels de la ville, parce que c'est vraiment un projet qui est porté par la direction du développement culturel. Donc un coup de projecteur sur l'actualité culturelle de la ville, et les petits reporters en herbe ont sillonné la ville tout aujourd'hui. On va voir ce qu'ils ont ramené au niveau des pépites, sûrement, sur ce qui se passe au niveau de la culture. Et puis, moi, je voulais rajouter que je suis vraiment ravie que ça se passe à la médiathèque, parce que qu'est-ce que c'est une médiathèque et qu'est-ce que c'est la mémo aujourd'hui? C'est d'abord un lieu qui est vraiment accessible et ouvert à tous. Je rappelle que l'accès aux services sur place, aux collections, est entièrement gratuit tous les jours, et que l'abonnement au service du prêt à domicile est vraiment modique, même gratuit pour les jeunes et pour les étudiants. Donc voilà, c'est aussi un lieu qui rassemble tous les domaines de la connaissance. On est un peu, on prétend au deuxième étage, par exemple, de la médiathèque, qu'on rassemble tous les savoirs du monde. Et finalement, c'est un outil pour nous, la médiathèque, pour comprendre le monde et pour fabriquer aussi des citoyens du monde. Et du coup, on est ravis qu'il y ait une émission de radio, parce que la presse, les médias, c'est aussi participer à la fabrique du citoyen. Et on sait qu'aujourd'hui, la liberté d'expression et la presse, c'est plus que jamais un sujet d'actualité. J'ai un petit reporter au-dessus de mon épaule qui regarde mes notes.
Ah oui.
Lui aussi, je pense qu'il a fabriqué une chronique qui va être passionnante. Voilà, donc des ateliers, il se passe plein de choses à la médiathèque. On a des collections qui sont en accès libre, je le disais. On a plus de 90 000, 95 000 documents. Mais la médiathèque, c'est aussi un programme d'action culturelle. On propose plein d'actions qui sont un prolongement des collections. Et c'est notamment le cas des contes, les contes bilingues qu'on propose depuis quelque temps les mercredis. Et je laisse Bouchra nous en dire un peu plus.
Oui, comme chaque mercredi, donc la médiathèque organise pour les enfants, mais aussi pour tous les publics, des séances de contes. Et ça a été le cas cet après-midi. On a invité les enfants à découvrir les auteurs, albums de la littérature jeunesse, par le biais de contes bilingues d'Orient, avec l'association mentalbanaise, la ZEC.
Voilà. Alors, on y avait envoyé quelques reporters. Il y avait Nolan, Olivier et Amine qui sont partis en reportage cet après-midi. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Racontez-nous, qui c'est qui commence? C'est Amine qui commence? Qu'est-ce que vous avez vu cet après-midi?
Bonjour mesdames et messieurs. Nous avons vu des contes qui a eu lieu à Mémo cet après-midi. Et ça parlait d'un ogre, d'une petite fille et un colombe, une colombe. Et après, la colombe, tous les matins, elle disait à la petite fille que...
Qu'est-ce qu'elle disait à la petite fille tous les matins, à la colombe?
La colombe disait, plus tu seras grasse et l'ogre te mangera.
Et elle est partie dans... Et l'ogre, elle a cherché.
Vous écoutez l'atelier CFM Radio depuis la mémo.
L'ogre prit du blé et alla le répandre au bord de la mer. Les colombes se précipitèrent pour picorer. Mais l'une d'elles était si fatiguée qu'elle traînait les pattes et avançait doucement.
Il a dû attendre.
Il a tout fini. Non, dès que les gens t'applaudissent.
Bonjour, qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans ce spectacle?
J'ai bien aimé les histoires. J'ai trouvé que c'était joli. D'habitude, je n'écoute pas des histoires d'Orient. J'ai trouvé ça joli.
Ben, c'est bien, je pense que c'est bien d'apprendre les histoires françaises et les histoires en arabe aussi. Ça a été intéressant. Voilà.
Maintenant, c'est à mon tour de poser une question. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce spectacle ?
J'ai bien aimé justement que le spectacle soit en français, mais pas que ça soit traduit.
Bonjour, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce film ?
C'était tout le fait que ce soit en français et traduit aussi en arabe, et les décors aussi, c'était magnifique, on s'y croyait, donc des histoires assez à la fois originales et marrantes, hein.
Mais c'est bien qu'il y ait mais de langue, en fait on apprend quand même, tant que c'est de la culture, hein.
Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui t'a plu dans ce spectacle ?
C'est de la culture et que aussi il parle avec la langue originale du conte.
C'était bien parce qu'en fait il parlait en arabe et du coup je comprenais pas trop. Du coup il traduisait, quoi. C'était cool.
À la mémo, c'est l'atelier CFM Radio. Okay.
Alors. T'avais préparé des questions.
J'en dis une.
Ouais, allez, c'est parti.
J'en dis une question.
Allez, allez.
Pourquoi vous êtes venu ici pour faire vos contes ?
Bonjour, donc je m'appelle Marielle Bringer, je suis la coordinatrice de l'association AZEC. Alors pour répondre à ta question, on est venu à la mémo pour faire un projet. C'est-à-dire que ce projet, c'est lire des contes avec des mamans qui sont d'origine arabe. Donc le titre, c'était Les Contes d'Orient. Je ne sais pas si tu as assisté ou pas. Je ne sais pas si tu te rappelles des titres, mais le premier, il y avait La Fille de l'Ogre, qui était un conte libyen.
Ah, c'est pas celui-là que vous avez entendu, Amine ? La Fille de l'Ogre ?
Si. Ouais. Il y avait Abou Az-Zoulouf et le loup, c'est un conte syrien. Et il y avait Nofa Petite Touareg, qui est un conte touareg. Voilà. Alors, pour répondre un peu plus précisément sur ta question, c'est qu'en fait, on a un projet qui est élaboré avec les parents de notre association. Et on a voulu demander de l'aide à la MIMO, en fait. Parce que tout seul, on n'y serait pas arrivé. Voilà. Donc, les mamans, elles ont bien voulu accepter être dans le projet pour participer pour la lecture de contes.
La traduction se fait de l'arabe vers le français ou du français vers l'arabe ? C'est dans quel sens, en fait ?
En fait, là, cet après-midi, ça a été du français vers l'arabe.
D'accord. Autre question ?
Pourquoi vous avez choisi trois dames qui parlent arabe et une dame qui parle français, au lieu de deux dames qui parlent arabe et deux qui parlent français ?
Ah, c'est des vrais questionnements. Ah.
Très bien. Alors, pour te répondre, comment j'ai fait le choix, en fait ? C'est ça ?
Et oui.
Franchement, j'ai pas réfléchi sur qui était français, qui savait parler français, qui savait parler arabe. Dans mon association, comme c'était des contes orientaux, j'ai proposé le projet aux mamans et il y en a trois qui ont levé le doigt, qui m'ont dit « Nous, on veut aller à la mémo pour lire des contes en arabe parce qu'on sait lire en arabe. » Par rapport aux contes français, je l'ai proposé à la dame de la mémo qui s'appelle Delphine, puisque moi, en fait, je pouvais pas les lire en français parce que j'étais occupée par autre chose. Voilà, d'accord ?
Un petit peu de musique et puis on revient dans un instant à la mémo pour ces ateliers radio avec les jeunes. À de suite.
Bye.
I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell. And now you're in my way. I traded my soul for a wish. Pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this. But now you're in my way. Your stare was holding. Ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you. And this is crazy. But here's my number. So call me maybe. It's hard to look right at your baby. But here's my number. So call me maybe. Hey, I just met you. And this is crazy. But here's my number. exciting, it's real. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at your baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Boy, you came into my life, I missed you so bad, I missed you so bad, I missed you so, so bad. Before you came into my life, I missed you so bad, and you should know that, I missed you so, so bad. It's hard to look right at your baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Boy, you came into my life, I missed you so bad, I missed you so bad, I missed you so, so bad. Before you came into my life, I missed you so bad, and you should know that, so call me maybe.
Un mercredi à la mémo, c'est l'atelier CFM, CFM Radio.
Voilà, toujours en direct de la mémo pour ces ateliers radio. On était en train de discuter avec Marielle des contes bilingues. Et on va continuer un petit peu dans le littéraire, puisqu'on va parler de poésie maintenant. Juste avant de changer de sujet, Marielle, rappelle-nous le nom de ton association et ce que vous faites tout au long de l'année, s'il te plaît.
Donc, comme je l'ai dit, je suis coordinatrice de l'association AZEC. Donc, en fait, notre activité principale, c'est d'aider les enfants en difficulté à réussir sa scolarité et favoriser sa future intégration sociale et professionnelle. Voilà. Après, on a d'autres actions qui concernent la parentalité. On est aussi prestataire de services avec le projet réussite éducative de la ville de Montauban. On fait aussi de la prévention du décrochage scolaire par un accompagnement approprié de parents. Et en fait, on fait aussi de la prévention et d'accompagnement des sanctions disciplinaires. Actuellement, nous recevons 130 enfants. Donc, ça part du CP jusqu'à la troisième, pardon.
D'accord.
Voilà, nous sommes situés au centre-ville.
Alors surtout, on pouvait juste préciser, je ne sais pas si ça marche, que tous les comptes ne sont pas forcément faits avec l'AZEC. On participe, on mène ces comptes-là avec d'autres associations.
D'accord. Même les comptes bilingues, ça se fait
l'idée,
aussi.
L'idée, c'est vraiment de monter ça avec plein de partenaires sur le territoire pour.
Ok. Voilà. Alors je disais qu'on allait continuer en littérature avec des poèmes. Oui, Bouchra, pardon, tu voulais dire.
Non, je voulais dire que c'était un plaisir d'avoir travaillé avec la ZEC et ce sera sûrement un second rendez-vous voilà, prochainement.
D'accord.
Vous écoutez l'atelier CFM Radio depuis la mémo.
Alors, on va parler poésie maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est le printemps des poètes.
Ah oui, on est en plein dans le printemps des poètes qui, cette année, en fait, propose une thématique sur l'insurrection poétique. Donc la mémo va célébrer cette voix des poètes en proposant... tout d'abord, on a proposé avec l'association Confluence un concours. Et à la mémo, on aura le plaisir de retrouver en fait les voix des poètes. Les bibliothécaires ont enregistré en fait certains poèmes qui seront diffusés en fait pendant 15 jours dans la galerie de la mémo pour célébrer justement ce printemps des poètes.
Alors comme on n'a pas encore les enregistrements, mais qu'on a Amine qui avait envie de lire un poème. Amine, c'est à toi.
Prenez un toit de vieille tuile un peu avant midi. Place tout à côté, un petit lot déjà grand, remis par le vent. Mettez au-dessus d'eau un ciel de bleu, lavé par un nuage blanc. Laissez faire, regardez-les.
Et c'est de qui ça? C'est de qui ce poème?
Eugène Guillevic.
Hein? Eugène Guillevic. C'est pas facile à dire comme nom ça.
Comment il s'appelle ce poème?
Comment il s'appelle?
Eugène Guillevic.
Merci Amine.
Donc quand on viendra, merci Amine, quand on viendra se promener là prochainement, on entendra régulièrement des poèmes.
Oui, tout à fait.
Le choix des poèmes, cette sélection, elle s'est faite comment?
C'est une sélection en fait qui est issue du manifeste pour vivre ici de l'insurrection poétique aux éditions Bruno Doucet. Et il y a plusieurs voix en fait de poèmes qui ont été choisis par les bibliothécaires.
D'accord.
Voilà.
Tu veux en lire un? T'as envie?
Oui.
Allez, Nolan.
Allez. Poème à dire. La liberté ne s'écrit pas. La liberté ne s'écrit pas sur la forme changeante des nuages. La liberté n'est pas une sirène cachée au fond des eaux. La liberté ne vole pas au gré des vents. Comme la nulle ne pince un lit, du pince un lit. La liberté en robe de ciel ne va pas dîner chez les rats. Elle allume pas ses bougies de Noël au lampion du 14 juillet. La liberté, je lui connais un nom plus court. Ma liberté s'appelle Amour. Elle a forme d'un visage. Elle a le visage du bonheur.
L'atelier CFM Radio à la mémo, c'est rigolo.
Comme dans un film au ralenti zoom, ta dernière image, toi qui t'enfuis, boum. Tu as dit c'est la vie, t'es parti et boum. Dehors il fait gris, clap de fin puis zoom. Le taxi en bas qui démarre et boum. J'ai le cœur qui bat au ralenti, boum. Dans tes yeux je vois tout est fini, boum. Notre histoire d'amour sous la pluie s'écoule. Ne pas repenser à toi surtout. Sortir faire comme si je tenais le coup. Ton souvenir me poursuit. Tu es dans toute mes nuits. Tu m'aideras à ne plus repenser à nous. Tu es parti et c'est trop tard. Tu es parti sans un regard. Tu m'aideras à t'effacer de ma mémoire. J'ai essayé d'oublier. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, l'amour a parfois tort. J'ai essayé de m'évader. Quoi qu'on pense et qu'on efface, l'amour a parfois tort. Je pense à toi, je te vois partout. Je rêve de moi, mais je rêve de nous. Au fond de moi, je deviens fou. J'ai peur de plus savoir aimer. Comme dans un film au ralenti zoom, j'essaie de cacher mes larmes qui coulent. Je me sens tout seul, perdu dans la foule. Tant de souvenirs quand moi je refoule. T'as dit c'est la vie, tout est fini, boum. En quelques secondes, un monde qui s'écroule. Ne plus regarder ces photos de nous. Depuis ton départ, c'est la fin de tout. Sortir faire comme si je tenais le coup. Mais te savoir loin d'ici me rend fou. Tu es parti et c'est trop tard. Tu es parti sans un regard. Tu m'aideras à t'effacer de ma mémoire. J'ai essayé. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, l'amour a parfois tort. J'ai essayé de m'évader. Quoi qu'on pense et qu'on défasse, l'amour a parfois tort. Je pense à toi, je te vois partout. Je rêve de moi, mais je rêve de nous. Au fond de moi, je deviens fou. J'ai peur de ne plus savoir aimer.
Babies on the beat, drop, drop on the beat. Babies on the beat, drop, drop on the beat. DC on the beat, drop, dropping on the beat. Babies on the beat, babies on the
beat. J'ai essayé d'oublier. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, l'amour a parfois tort. J'ai essayé de m'évader. Quoi qu'on pense et qu'on défasse, l'amour a parfois tort. Je pense à toi, je te vois partout. Je rêve de moi, mais je rêve de nous. Au fond de moi, je deviens fou. J'ai peur de ne plus savoir aimer.
CFM Radio Mémo.
Les ateliers radio se sont déroulés cet après-midi avec une dizaine de jeunes. J'aimerais que vous laissiez votre place. Olivia, est-ce que tu veux bien laisser ta place à notre futur invité, Jean-Marc Andrieux, qui va venir s'asseoir avec nous. Jean-Marc Andrieux, tiens, donne le disque à Charlotte, elle va le donner à Abdoul, qui va le mettre à la... Vas-y. Alors, on va recevoir Jean-Marc Andrieux. Jean-Marc Andrieux, c'est le chef d'orchestre des Passions, directeur de conservatoire également.
Bonjour.
Non, je dois y aller.
Bonjour les
enfants. Bonjour.
Et ça nous permettra d'écouter quelques extraits de ce fabuleux CD Folie qui est sorti il y a même pas six mois.
Un CD de folie, ouais.
Ouais. Il y a une grosse actualité du côté de l'Orchestre des Passions parce qu'il y a 3 concerts en préparation.
Oui, en ce moment, c'est chargé, oui.
Alors, on prend dans l'ordre. Le 14, qu'est-ce que c'est ?
14 et 15, c'est un tir groupé, c'est une des grandes œuvres de l'époque baroque qui s'appelle le Messie de Handel.
Ouais.
Voilà, ça raconte la vie du Messie, qui est Jésus-Christ, voilà, donc la naissance, la passion et la résurrection, les 3 étapes de sa vie. Et c'est une œuvre pour un grand chœur, pour un orchestre avec des chanteurs solistes. Tout le monde connaît certainement un des extraits les plus connus, c'est l'Alléluia du Messie. Voilà, ça on connaît quand même.
D'accord. Et alors on se demandait quelle plage c'était, tout simplement. Alors,
mais on va pas écouter le Messie là.
Et non.
J'ai pas amené le Messie.
D'accord.
Le Messie, on l'attend toujours. Hein. Il finira par arriver un jour. Il arrivera le Messie. Non, là j'ai apporté le dernier disque qu'on a enregistré. Donc vous voulez qu'on en écoute maintenant?
Oui, moi je voudrais qu'on écoute un petit extrait.
Ouais.
T'as une question, Raphaël?
On va mettre le début du CD. Question.
C'est musique, c'est chansons, ça prouve qu'on peut raconter des choses, mais pas par des paroles, c'est aussi par des chants, des musiques.
Ah, très très bonne question, ça c'est impeccable, ça commence très bien. Comment ça se fait qu'avec la musique on puisse raconter une histoire? C'est ça?
Ouais.
Hein, c'est ça ta question. Alors voilà, ça c'est la grande question. Est-ce que quand on entend de la musique, on est sûr que on comprend l'histoire que la musique raconte? C'est plutôt des sentiments. Et la musique, elle a plutôt la fonction d'évoquer des sentiments. Des émotions.
Et ces émotions peuvent raconter une histoire.
Et après, c'est chacun qui se fait son histoire avec ses émotions. Toi, si tu entends une musique, peut-être que tu vas te raconter une histoire, mais ton voisin, ton copain, il va se raconter une autre. Mais c'est pas grave, c'est chacun qui se fait son histoire. Un peu comme quand on lit un livre ou qu'on regarde un film, on n'a pas tous la même façon de le recevoir.
Okay. On écoute, justement, une histoire.
Ben, si on veut, oui, c'est une histoire. Ben, vous me direz si vous la trouvez triste ou gaie, cette histoire.
Alors, c'est extrait de l'album Folie. Est-ce qu'on entend, c'est quoi?
C'est la Folia de Corelli, arrangée pour flûte et orchestre à cordes, par votre serviteur.
Voilà donc un extrait de ce fameux Messie. Non, pas du tout.
Non, là, pas celui-là. Dernier CD. Non, le Messie, j'ai pas apporté, non. Non, c'est le dernier disque qu'on a enregistré et eh bien il y a un scoop là à vous annoncer, c'est qu'on on a été élu disque du mois, CD du mois dans une revue spécialisée en Allemagne.
Ah oui.
Voilà, ce CD,
la consécration.
Voilà, ce disque. Voilà, ça fait plaisir quand même. Ça nous flatte. Voilà.
Qu'est-ce que c'est Tabou?
Ah oui, Tabou, c'est un film. C'est un film qui date de 1931. Vous voyez, c'est très très vieux. C'est un des derniers films muets. Vous savez ce que c'est un film muet?
Oui, c'est quand il parle pas. C'est voilà. Juste des gestes, c'est comme l'Aurel Hardy.
Voilà, exactement. Ça date de cette époque-là pour accompagner et pour aider à raconter l'histoire. Mais plutôt pour montrer les émotions. Quand il y a quelqu'un qui est étonné, il joue un accord un peu fort d'un coup. Voilà, il fait des effets comme ça.
Quand il y a une scène un peu suspense.
Voilà, il fait comme ça avec le piano. Ouais, on fait des effets pour souligner l'action. Et donc, ce film-là, on va le passer à la mémo, ça sera samedi soir, le 21. Et on va jouer de la musique en même temps. On va accompagner le film en faisant des musiques. Et c'est un film de Murnau. On connaît tous Murnau, tous.
Non, je suis sûr que Raphaël ne connaît pas Murnau.
Murnau, c'était un grand réalisateur qui a fait le premier film de vampire, qui s'appelle Nosferatu.
Oui. C'était pas un mec moche.
Oui, c'est ça,
avec
voilà.
Sandra.
Eh bien voilà, c'est...
Justement parce que quand c'était Halloween l'année dernière, on a vu les plusieurs films qui ont été faits, qui
des films de vampires,
horribles,
des films d'horreur. C'est ça. Voilà. Et ce Murnau, c'est celui qui a réalisé ce film de Nosferatu,
oui,
où on voit le type là.
C'est là-dedans qu'on voit la musique avec le piano suspense.
Voilà, exactement. Et là, il a écrit, il a fait un autre film, ce Murnau, ce réalisateur.
Récemment.
En 32, en 1931 ou 32, hein, non, c'est pas récent.
C'est pas récent. Hein,
c'est il y a 80 ans. Et donc, il a fait ce film qui se passe à Tahiti. Et c'est une histoire d'amour.
C'est vraiment tourné à Tahiti?
Oui. Ça a été tourné à Tahiti à l'époque. Oui. Et c'est en noir et blanc. Et on voit une histoire d'amour. C'est un garçon et une fille qui sont amoureux. Ils veulent se marier. Seulement, la tribu, sur place, veut
c'est
que.
C'est un peu Roméo et Juliette, en fait.
Exactement, voilà, c'est un peu ce thème-là. Ils sont amoureux, ils veulent se marier, mais il y a une loi qui, l'ancienne de la tribu, décide qu'elle sera la femme du chef de tribu. Et voilà, et bien alors ils veulent s'échapper, et voilà, c'est une histoire d'amour.
Des amants qui fuient, qu'est-ce que c'est romantique.
Et voilà, c'est du romantisme, voilà, exactement. Et on a mis de la musique baroque en même temps.
Qu'est-ce qui fait Jean-Marc Andrieux, pour revenir à ce que disait Raphaël finalement tout à l'heure? Quand il dit qu'une musique raconte des histoires, qu'est-ce qui fait qu'une musique va être plutôt choisie et évoquer, on va dire, le suspense, et une autre la gaieté, et une autre la tristesse?
Alors le premier élément, c'est le rythme. Ça, c'est le premier élément. Très important, le rythme. Deuxième élément important, c'est la mélodie. C'est-à-dire, évidemment, quand c'est gai, on va faire un rythme plus rapide.
Faut aussi le bon instrument.
Et quand c'est triste, on va faire une mélodie, un rythme plus lent. Ensuite,
violon
une
aussi.
Mélodie dans l'aigu, quand c'est dans l'aigu, ça paraît plus gai que quand c'est grave. Quand c'est un violoncelle qui joue, c'est plus sérieux. Après, tu as raison, l'instrument a de l'importance. Par exemple, il y a le clavecin à un moment qui joue, quand il y a la fille qui est amoureuse, on entend du clavecin, ça correspond. Ou alors, je joue de la flûte, à un moment, il y a un personnage qui monte à un cocotier. Alors avec ma flûte, je fais je joue un peu comme la panthère rose pour
comme
montrer
si,
qui monte
si
à l'arbre.
Le fait de monter dans l'espace aussi, on monte
on monte
dans les
avec
aigus.
Les notes. Voilà, on fait une gamme qui monte. Voilà, pour ça on a fait ça pour s'amuser un peu quoi. C'est un
on écoute encore un autre extrait de folie.
Oui, on va écouter du violon là. On va entendre du Vivaldi. Vous connaissez Vivaldi?
Vivaldi?
Oui.
Tu connais les quatre saisons, Alan?
Les quatre saisons de Vivaldi. Oui, on a écouté ça l'année dernière. C'était vraiment bien. On a écouté plusieurs pas tout, mais
oui.
On a écouté déjà la première
alors,
partie.
Alors là Vivaldi dans les quatre saisons, il raconte une histoire.
Oui, on a entendu, je crois, le printemps.
Le printemps.
Et l'été.
Et l'été. Et là, on va entendre un autre morceau pour violon de Vivaldi, qui s'appelle aussi La Folia, justement, parce que ce disque, c'est que ce thème-là qui va revenir. Voilà, deux violons qui jouent ensemble.
C'est joli.
Alors ça commence. très sérieux et après ça s'excite.
C'est l'atelier CFM Radio.
Alors, dans l'idée, depuis 14h aujourd'hui, des jeunes se sont emparés des sujets proposés par la mémo et par les différents équipements de la ville qui sont liés à la culture. Et donc, on est allé au pôle mémoire, plus précisément au musée de la résistance et du combattant, voilà. Et donc il y a une expo en ce moment, une expo qui s'intitule « Vie effacée à la découverte des camps ». Alors pour parler de cette expo, eh bien il y a Fatoumata et Mathias qui sont les deux jeunes. Salut Mathias.
Bonjour.
Salut Fatoumata.
Bonjour.
Qui sont partis en reportage à la rencontre de Laurence Héritier, la directrice de ce musée. Bonjour Laurence, merci d'être là également. Et merci d'avoir accueilli cet après-midi Fatoumata et Mathias pour leur donner des explications justement sur cette exposition. Pour aller plus loin sur cette expo et sur ce thème, avec nous autour de cette table, André Mas, ancien résistant déporté, ou résistant ancien déporté, parce que peut-être que déporté on l'est par le passé, mais résistant on l'est peut-être toujours. Alors voilà. Bonjour, merci d'être là, André Mas.
Merci de m'avoir reçu.
Et pour témoigner, vous répondrez aux questions dans quelques instants des jeunes qui sont là, de Fatoumata, de Mathias, et puis peut-être de ces élèves de 3e de la classe CHAM de Charlotte Rep. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous nous expliquerez ce que c'est une classe CHAM tout à l'heure. Hein,
je rectifie juste, ce sont des CHAM et des bilingues allemands aussi.
Des CHAM et des bilingues allemands et espagnols. D'accord. Voilà, enfin, ils reviennent d'Auschwitz, voilà, pour la petite histoire. Alors, cet après-midi, vous, qu'est-ce que vous avez fait, Mathias ?
Cet après-midi, on est allé au musée de la résistance et du combattant pour voir une exposition et le reportage sur les camps de concentration. La vie était difficile et on a fait l'interview sur Laurence Héritier qui nous a expliqué son exposition et pourquoi elle a choisi ce thème.
À la mémo, c'est l'atelier CFM Radio.
L'exposition que nous présentons au Musée de la Résistance et du Combattant est visible jusqu'au 27 mars de cette année. Donc, c'est une exposition qui parle de la vie dans les camps de concentration et d'extermination. Ça parle du départ des déportés pour aller jusqu'au camp de concentration, le transport, l'arrivée, la sélection et aussi le travail sur place, l'appel. En fait, toutes les étapes de cette vie dans les camps de concentration sont détaillées dans cette exposition. En plus de ça, on a mis en présentation des objets et des vêtements de cette époque. Ce sont de véritables objets puisqu'il y a une tenue de monsieur André Masse, ancien résistant déporté, et une tenue aussi, un manteau de déporté de monsieur Verne.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette exposition ?
Bonjour Mathias. Donc nous avons choisi le thème de la vie dans les camps de concentration de déportation cette année parce que nous commémorons cette année le 70e anniversaire de la libération des camps par les troupes alliées en 1944-45. Et cette année, c'est aussi le thème du concours national de la résistance et de la déportation, la libération des camps. Donc on a choisi de montrer aux élèves, mais aussi au public, ce qu'était la vie dans les camps et au moment de la libération.
Nous avons aussi recueilli le témoignage de certaines personnes âgées qui ont été touchées par la projection cinématographique et ça nous a beaucoup touchés aussi.
Alors, le sujet forcément me tient à cœur comme mère et comme surtout étant née à peu près à cette période-là où j'aurais pu, étant née en 44, être aussi concernée. Et je trouve très émouvant des gens de notre âge maintenant qui ont eu leur enfance complètement bouleversée et qui ont été arrachés à leurs parents et dont ils découvrent aujourd'hui parfois la trace et l'existence, puisqu'ils n'ont plus de souvenirs du tout, puisque ce sont des enfants qui ont été cachés. Voilà. C'est très émouvant. C'était très, très, très émouvant.
Merci.
Oui, beaucoup d'émotions aussi, parce que ce sont des questions qui ont accompagné ma jeunesse, étant née en 40, et toute mon adolescence, on découvrait des choses au fur et à mesure, et maintenant, ça vient concrétiser, effectivement, de ce qu'on a pu approcher au fil des années et auquel j'ai échappé parce que le hasard de la vie, quoi. Voilà.
Merci.
Moi, je suis venue par intérêt pour la période parce que je trouve que ça a été beaucoup trop occulté et qu'il y a vraiment un devoir de mémoire très, très, très important pour que ça ne recommence pas.
À la mémo, c'est l'atelier CFM Radio.
Donc un reportage réalisé cet après-midi au Musée de la Résistance et du Combattant. À la suite de la projection d'un film, Laurence Héritier, c'était quoi ce film ?
Paroles d'étoiles.
Oui.
Voilà, donc en fait, c'est un ensemble de films réalisés par Thomas Gilou. Des témoignages d'anciens déportés israélites. Et après, il y a aussi un film sur place qui a été fait où on assiste en fait à une visite guidée par des anciens déportés et leurs familles, accompagnés d'un guide qui explique la vie au quotidien. D'accord. Et il y a justement un des témoins qui dit que Auschwitz qu'ils visitent ne ressemble pas à Auschwitz qu'ils ont connu eux, parce qu'on entendait les oiseaux, c'était vert, c'était beau, c'était propre, ça sentait bon. Voilà. C'est une chose, voilà, que lui, dans son souvenir, Auschwitz, c'est pas ça. C'est pas la verdure, c'est la boue en permanence, c'est l'odeur des corps malheureusement brûlés. La promiscuité, la saleté en permanence, voilà, ça n'avait rien à voir. Mais il explique bien aussi que c'était important de se rendre sur ces lieux de mémoire, de perpétuer ce souvenir, d'expliquer aux jeunes générations et qu'ils se rendent compte eux-mêmes de ce que ça a été.
Alors, vous intervenez régulièrement, André Masse, et vous avez même prêté votre pyjama. Je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça. Hein, c'est pas un pyjama.
C'est un costume de déporté.
Un costume de déporté. Mais costume, c'est pas terrible non plus comme terme, je trouve.
Eh oui, mais il n'y a pas d'autre terme.
C'était la tenue dans les camps, quoi.
C'est une sorte d'uniforme.
Camps, oui. C'est l'uniforme, ouais. C'est l'uniforme rayé que vous aviez dans les camps.
Oui, en arrivant, on vous donne cette tenue. Et vous la gardez. Moi, je l'ai gardée un an sur moi. Sans la laver, sans rien.
Alors vous étiez où? Vous avez été déporté où, vous?
À Dachau.
Ouais.
Et de Dachau, je suis parti à un commando qui s'appelle Neckarels. C'était une école qui avait été transformée en prison. Et là, je suis resté un an. Et au bout d'un an, les Russes nous ont libérés. Ils m'ont gardé quelque temps et ils m'ont passé avec les accords aux Américains. Je suis resté 3 mois dans un hôpital parce qu'on m'avait inoculé le BK de la tuberculose. Et j'étais tuberculeux, donc personne ne voulait me prendre. En Allemagne, ils voulaient bien se débarrasser de moi, mais en France, personne ne nous voulait parce qu'on n'avait pas de médicaments pour nous soigner. Ça n'existait pas.
Ouais.
Les tuberculeux, on les mettait à Oséja, dans un sauna, en attendant qu'ils meurent. C'était des mouroirs. Et j'ai eu la chance de m'en évader parce que je restais pas en place et j'ai tenu 10 ans comme ça. Et au bout de 10 ans, je suis retombé à redégorger le sang et on m'a fait rater dans une clinique qui a bien voulu accepter de me soigner. Et là, on m'a pas dit que j'étais guéri, mais on m'a dit que j'étais stabilisé, que je pouvais réintégrer la vie civile.
Alors on va revenir, si vous voulez bien, sur votre période de déporté, puisque les jeunes qui sont ici ont des questions aussi à vous poser. Puis j'imagine aussi que ceux qui reviennent d'Auschwitz, là, peut-être auront des questions à vous poser. Mathias.
Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui par rapport à ce que vous avez vécu?
Ah, la vie est plus belle aujourd'hui qu'elle l'était autrefois. Et ça, évidemment. Non, moi, ce que je ressens, ce qui m'intéresse et qui me fait le plus plaisir, c'est de voir que la jeunesse est intéressée à ce problème-là. Parce que moi, si j'ai été déporté, c'est parce que j'avais un idéal. Et c'est l'idéal qui m'a tué. Si j'avais pas eu d'idéal, je serais resté tranquillement, je serais pas parti en Allemagne. Et même en admettant que je sois pris pour le STO, le STO, c'est le service du travail obligatoire qui a été instauré en France. Je aurais pu me camoufler dans une ferme et ne pas partir. Mais je suis heureux quand je vois que la jeunesse s'intéresse à la vie d'aujourd'hui, parce que si elle connaît son passé, peut-être qu'elle n'aura pas à le revivre un jour. C'est ça le plus important, pour moi.
Une autre question, Fatoumata.
Sur quoi vous êtes basé pour résister aux tortures?
Pourquoi?
Qu'est-ce qui a fait votre force pour résister à tout ça?
Mais je vous l'ai dit tout à l'heure en deux mots, c'est l'idéal. Quand on a un idéal qui est bien ancré. Moi, j'ai quitté l'école, j'avais 20 ans. Et à ce moment-là, les jeunes, on était idéalistes. Puis on avait perdu la guerre alors qu'on croyait qu'on était les plus forts. C'était pas vrai. Et ça, on en a eu un peu honte. Moi, j'avais un père qui avait fait 4 ans de guerre. Je voulais être à la même hauteur que lui et je me suis engagé pour aller dans une guerre j'aurais pu m'éviter d'y aller. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Moi, j'ai pas su le faire. Hein. Et je suis parti comme ça, parce que je me suis fait arrêter.
On fait une courte pause musicale, d'accord? Et puis on continue notre conversation avec André Mars autour de cette exposition au musée de la résistance et du combattant. Une exposition que vous pouvez aller voir en ce moment et qui s'appelle « Vie effacée à la découverte des camps nazis ». Dans quelques instants, on va donner la parole à Charlotte Repp, qui est enseignante à Olympe de Gouges, et à ses élèves qui sont allés en voyage scolaire à Auschwitz.
Thank you.
Alors cette musique que l'on vous passe, je vais laisser Charlotte Rep, enseignante au collège Olympe de Gouges, vous la présenter parce qu'elle est directement en rapport avec un des projets que vous avez avec vos élèves. Bonjour Charlotte.
Bonjour. Donc la musique que nous avons entendue a été composée par Bernard Cherba, qui est un compositeur franco-polonais ukrainien, qui a été mon professeur de piano quand j'étais enfant, qui est profondément ancré dans la culture slave et qui nous a offert en fait sa musique pour le projet de film que nous avons avec la classe de troisième que j'ai cette année pour justement commémorer les déportations. Voilà, et garder la mémoire des déportations par rapport au voyage qu'ils ont fait. Ils sont d'abord allés sur les traces de leur propre famille dans un premier temps, sur les traces de l'histoire locale. Et donc ensuite, nous avons fait le voyage dont nous sommes rentrés samedi.
D'accord. Donc c'est tout frais pour vous, les jeunes, là. Est-ce que ça a été quelque chose d'important, de marquant? Vas-y, dis ton prénom et explique-moi un petit peu ce que ça a été pour toi, ce voyage à Auschwitz.
C'est bon?
Ouais.
Ah, ok. Je m'appelle Idriss.
Ouais.
Et ouais, bah, rentrer samedi, ça fait pas longtemps. Je suis encore fatigué du voyage. Et ouais, c'était assez pesant, en fait.
Ouais.
À Auschwitz, parce que là-bas, c'est... Faut y aller, en fait, parce que raconter comme ça, c'est un peu dur.
J'ai l'impression, c'est pas la première fois que j'interviewe des élèves qui reviennent d'un camp Auschwitz ou même d'autres plus âgés. Et j'ai l'impression que c'est ce mot-là que tu viens de dire qui revient le plus souvent. C'est-à-dire, c'est pesant. C'est quelque chose de voilà, on en ressort pas indemne, quoi, de cette visite de camp.
Ouais.
Ouais.
Bah oui, bah pesant, c'est le mot le plus juste, le plus exact. Là-bas, c'est. Après, quand on revient.
Qu'est-ce qui t'a marqué le plus, par exemple, toi?
Là-bas?
Ouais.
Je ne sais pas. Tout. Je pense que c'est dans les chambres à gaz, les marques d'ongles sur les murs. Ça m'a.
Ouais. Tu fais tourner le micro pour voir, on fait.
Ok.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Malik.
Salut Malik.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est comme Idriss, les griffures sur les murs. Et aussi les baraquements où ils étaient genre trois par palier. Et le palier, il faisait. Par un chali. Ça faisait même pas un mètre et on calait trois personnes dedans, c'était insalubre et voilà.
Ouais. C'était comme ça pour vous à Dachau, André Mas aussi?
C'est comme s'il y était hier.
Cette chambre là qu'il décrit où ils étaient à trois dans un mètre carré ou je ne sais quoi, c'était comment vous? C'était ça aussi?
Ah non, on avait des chambres où on était 50.
Ouais.
Et on avait une couverture pour trois. C'est-à-dire que c'était deux chalis adjacents qui se tenaient. Alors il y en avait un qui était sur le lit, l'autre qui était sur le lit, et celui du milieu, il était sur les morceaux de bois. Et on tournait pour que ce soit à tour de rôle, qu'on ait le bois dans le dos. Et on avait une couverture pour trois.
Comment tu l'as vécu, toi, ce séjour à Auschwitz? Dis-moi. Dis ton prénom, peut-être, avant.
Virginie. Disons que c'était aussi pesant et impressionnant. Parce que en fait, on a eu en classe, on y a beaucoup travaillé dessus avec les lectures et tout ça. Et le but d'y aller, c'était surtout de mettre des images sur les mots. Et sur le coup, quand on y est comme ça, on est là, on est. C'est vraiment impressionnant, parce que c'est assez exceptionnel de l'aller, je dirais. Et...
Ça vous a permis de prendre conscience,
oui,
de la réalité, de ce que ça a été.
Aller là-bas, c'est surtout, c'est vraiment prendre pleinement conscience. Enfin, on est certainement conscient un peu au début, mais ça fait que renforcer d'y aller.
Charlotte Rep, c'est quoi? Ça veut dire quoi, classe CHAM? C'est quoi?
La classe CHAM, c'est une classe à horaire aménagé musique, donc on libère des horaires pour qu'ils puissent aller au conservatoire.
Ok. Donc trois classes sont parties, enfin classe CHAM, classe bilingue.
En fait, c'est une seule classe qui réunit plusieurs options.
D'accord.
Et donc il y a des bilingues allemands, il y a aussi des hispanisants un petit peu. Et donc là, il y a vraiment un partenariat. En fait, c'est un projet très complet puisque à la fois il y a le film qu'ils doivent produire, il y a aussi l'écriture puisque moi je suis professeure de français, donc d'accord, forcément je les fais écrire beaucoup depuis le début de l'année pendant le voyage. Le but étant qu'ils puissent avoir ce regard sur eux aussi.
Et donc les Cham montent Brundibar, qui est un opéra qui a été interdit à Theresienstadt et qui a servi de vitrine pour la Croix-Rouge. Et suite à la représentation, ils ont tous été envoyés aux Auschwitz et gazés. Donc il y a ce projet aussi.
Une dernière question peut-être que vous auriez à poser, Mathias, Fatoumata ou les autres, hein, tant qu'on a l'opportunité d'avoir avec nous un ancien résistant déporté, André Mas.
De quelle façon avez-vous été torturé?
Oui,
il y a plein de
fois. 5 interrogatoires à la Gestapo de Montauban, Faubourg du Moussier, j'ai eu droit. Et je suis passé 2 fois dans la piscine, dans la baignoire, une fois pendu par les pieds et une autre fois attaché autour du ventre. Et là, j'ai été condamné à mort parce que j'ai pas voulu dire le droit de mon maquis. Et mais autrement, dans 5 interrogatoires, j'étais 2 fois, je me suis trouvé mal. Je sais pas comment j'ai atterri à la caserne parce que on me gardait à la caserne du Croufoucault là-bas. Voilà. Mais pour être tabassé, on a été tabassé.
Valse de Burkaniv numéro 2, extrait de l'album Slav de Bernard Scherba. Donc ça va être la musique d'un film, hein, si j'ai bien compris, sur lequel vous travaillez, Charlotte.
Oui, c'est ça. Ouais. On a l'autorisation en fait de Bernard pour l'utiliser. Donc j'en suis très fière.
Vous vouliez dire quelque chose, Charlotte Rep, à André Mas, ici présent, qui a été aussi, il me l'a dit hors antenne, l'initiateur, le créateur, hein, du musée de la résistance et de la déportation.
Il me l'a expliqué tout à l'heure. Donc, il avait mis toute sa vie dans le musée de la résistance et de la déportation. Et moi, je voulais le remercier et lui dire que des hommes comme lui, j'étais très admirative et que... Ces hommes-là, ces messieurs, puisque ce sont des messieurs pleinement, voilà, je les remercie. Moi qui suis encore jeune pour l'instant, voilà, je vous remercie aussi. Et ce sont des gens dont l'engagement et l'idéal doivent nous servir de modèle, surtout dans le monde actuel.
Alors André Mas, répondez pas tout de suite, parce qu'il y a des questions encore du côté de Mathias et de Fatoumata. Ils ont préparé des questions cet après-midi. Allez.
Quelle est la différence entre notre époque et la vôtre?
Ah, je pense que nous avons eu une époque enrichissante. Je pense que cette époque a fait de nous des hommes. Aujourd'hui, je ne sais pas si la jeunesse est dans les mêmes disponibilités que nous étions, nous. On avait le respect de nos parents, alors en les regardant dans les yeux, on baissait la tête. Et aujourd'hui, les jeunes, vous êtes plus dourdis que nous avons été. Vous vous imposez alors que nous ne savons pas le faire. Mais je pense que nous avons eu, grâce à nos parents, tout ce qu'on pouvait désirer. Moi, je, même malgré ma déportation et ma condamnation à mort, à laquelle j'ai échappé puisque je suis là, je dis que mon époque était une époque héroïque. Elle était formidable. Il en est sorti, je pense, comme vient de dire madame, des hommes.
Une autre question, Mathias.
À quelle époque vous avez été libéré?
J'ai été libéré en 1945.
Septembre 45.
Un an, je suis resté en déportation, un an et demi avec les hôpitaux.
Malik, une question.
Oui, monsieur Mas, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous voyez tout ce qui se passe à la télé, les attentats et tout?
Je pense que si on faisait un peu voir un peu moins de films à coups de revolver et des films un peu plus pédagogiques, ça serait mieux pour la jeunesse, mais on n'a pas le droit à la parole, nous. Non, chaque période, chaque époque mène son genre de vie, c'est comme ça, c'est l'évolution de la vie, c'est comme ça. Je vous souhaite beaucoup de bonheur.
Oui, j'ai une autre question. Monsieur Mas, après votre libération, est-ce que vous en avez parlé tout de suite de votre déportation ou est-ce que vous êtes renfermé sur vous-même?
Moi, j'en ai parlé tout de suite parce qu'après la libération, quand j'ai été rapatrié d'Allemagne, on m'a mis dans un mouroir. Ça s'appelait pas un mouroir, ça s'appelait un sauna. Ça n'existe plus. C'était l'endroit où on mettait les gens tuberculeux et qu'on les mettait là pour ne pas qu'ils transmettent la contagion à d'autres personnes. Mais il a fallu attendre 10 ans pour que nous ayons les antibiotiques et que l'on puisse nous stabiliser. Donc moi, j'en ai parlé tout de suite parce que j'ai écrit, comme j'étais dans des hôpitaux, que la lecture, mon passe-temps c'était la lecture, que le livre était cher, je me suis mis à écrire et j'ai écrit tout le temps. Et c'est comme cela que j'ai toujours parlé de ma déportation. J'y suis resté dedans.
Et ce n'était pas dur d'écrire ce que vous aviez vécu?
Non, moi j'ai davantage souffert de la vie, comme par exemple, je vais vous donner un exemple qui est frappant, que même ma famille n'a jamais compris. Aujourd'hui, il passe un avion, personne n'enlève la tête pour le regarder. Mais s'il me passe un avion la nuit un peu trop bas, je me lève du lit. Encore, je suis malade des bombardements.
Vous avez encore un traumatisme,
ouais.
Encore aujourd'hui.
Moi, je l'ai encore. Et ma femme me le faisait remarquer. Elle disait que j'avais la compolette qui s'était déboulonnée.
Merci André Mas pour ce témoignage et d'avoir bien voulu répondre aux questions de ces jeunes. Le musée de la résistance et du combattant organise encore des projections. Oui. Vous nous redonnez les dates, s'il vous plaît, Laurence.
Oui, alors déjà aussi, je voulais rappeler que ça faisait un an maintenant que le musée de la résistance et du combattant était installé au sein de la Roseraie dans l'ancienne bibliothèque municipale et en même temps du pôle mémoire. Et ce pôle mémoire est composé de la mémo patrimoine, des archives municipales et du musée. Donc dans la même enceinte, on a toutes ces entités culturelles et c'est assez important puisque ça permet au public aussi de découvrir un autre patrimoine, autre chose à Montauban. Après, au niveau du musée, donc on avait inauguré le musée l'année dernière, il y a le 7 mars. Vous voyez, c'est tout jeune. Hein. Et même si le musée existe en réalité depuis 1989, voilà, ouais. Grâce aux dons entre autres de Monsieur Massin.
Moi, j'ai inauguré avec le ministre.
Ah, j'étais pas là.
Grand rue Ville-Nouvelle.
Voilà, aujourd'hui, donc, on est deux boulevards Édouard Herriot. Et donc, par rapport à cette exposition, on a organisé des visites guidées, des lectures, des projections. Et des conférences au TRID. Donc, pour la prochaine et dernière visite guidée, c'est le 18 mars à 15h. Et la prochaine projection, c'est le 25 mars à 14h. C'est « La vie est belle » de Roberto Benigni. Et on finit avec lui. Sachant aussi qu'on reçoit encore régulièrement, et aujourd'hui, on a eu une classe de Michelet qui prépare le concours de la résistance et de la déportation, parce que nous avons la chance d'avoir une grande salle pédagogique qui peut accueillir une classe de 30 élèves, voire plus, et aussi un centre de documentation et salle de consultation qui est accessible à tout public. Et ces élèves, ce matin, se sont partagés avec leur enseignante. Ils ont pris 2 heures de leur temps scolaire pour venir au musée et préparer le concours. Voilà.
Merci Laurence Héritier, merci André Mas, merci Charlotte Reb, merci les jeunes d'avoir participé à ce moment de radio. Merci Mathias et Fatoumata d'avoir proposé ces questions. On n'a plus le temps pour la dernière question. Ah non, c'est aussi la radio, c'est du temps, mon pauvre, c'est comme ça.
On peut rajouter aussi que le programme du musée sur le site internet de la ville de Montauban.
Non, elle est infernale. Elle parle plus que vous.
Ah, moi je parle pas.
Un mercredi à la Memo, c'est l'atelier CFM, CFM Radio.
Allez, un petit peu de musique et puis on passe au sujet suivant. On va partir du côté du Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Montauban.
Surrounded by the colored lights, on and on she moves into a paradise without day and without night.
CFM, CFM Radio.
Un atelier qui s'est déroulé sur le mercredi après-midi avec une dizaine de jeunes. On a abordé un petit peu, on a essayé de brosser comme ça un éventail de sujets autour des différents équipements culturels de la ville de Montauban. Et on l'a fait, on va aborder maintenant donc dans cette troisième partie le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Et ceux qui sont partis en reportage au Centre d'architecture de au CIAP, hein, on va dire comme ça pour le reste de l'intervention, c'est Valentin et Clément qui sont partis à la rencontre de Sarah Gerbert qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Hôtel de la noblesse et de la bourgeoisie à Montauban ». Messieurs, avant de donner ensuite la parole au directeur du Centre du patrimoine, je vous laisse la parole.
Bonjour Rémi.
Bonjour Valentin, bonjour Clément.
Alors nous avons visité un hôtel particulier situé rue des Soubiras,
Soubirous.
Exactement. On en trouve beaucoup à Montauban, environ 85 dans le centre historique de la ville. C'est un hôtel du XVIIe siècle où vivaient de nobles montalbanais à l'époque. Aujourd'hui, ce sont des appartements ordinaires qui ont été restaurés. Nous sommes allés à la rencontre de Sarah Gerbert, chargée de l'inventaire du patrimoine. Elle vient de publier un livre d'ailleurs, comme vous l'avez évoqué Rémi, sur les hôtels particuliers de cette ville.
À la mémo, c'est l'atelier CFM Radio.
Donc c'est hôtel de la noblesse et de la bourgeoisie à Montauban.
D'accord. Et alors quel est votre rôle au centre du patrimoine à Montauban ?
Alors mon métier, c'est chargé d'inventaire du patrimoine bâti. Mmh. Je fais des recherches donc sur l'architecture et en fait j'avais pour mission à l'origine donc de répertorier dans la ville de Montauban les hôtels particuliers, de dresser en fait une étude architecturale et historique et surtout de rencontrer finalement les propriétaires qui m'ont ouvert un peu toutes leurs portes, que ce soit de la cave jusqu'au grenier.
D'accord. Concernant votre livre, non, est-ce qu'il est paru encore ?
Alors, il est paru, mais il sera présenté officiellement le 24 mars lors d'une conférence, en fait.
À Montauban ?
À Montauban, à l'ancien collège.
D'accord.
Où peut-on trouver la grande partie des hôtels particuliers montalbanais ?
Alors, principalement en centre-ville, puisque les hôtels particuliers, ce sont des demeures urbaines avant tout. En fait, on a trois zones principales. Vraiment le centre ancien, le cœur de ville autour de la place nationale, c'est-à-dire tout ce qui est rue du Greffe, rue des Carmes, enfin vraiment les petites rues qui entourent la place. Les grandes artères, comme la rue de la Résistance et la rue de la République. Ensuite, une deuxième zone, en fait, c'est celle qui ceinture la vieille ville. Là où étaient avant les fortifications. Donc ceci constitue en fait de véritables quartiers. Et on est plutôt là sur les rues Léon de Malville, Comédie, la rue des Soubirous et la dernière, la rue Lasserre. Voilà, vraiment la ceinture de la vieille ville de Montauban. La troisième zone, c'est celle des faubourgs. Donc deux faubourgs principalement sont concernés par l'établissement d'hôtels particuliers. C'est le faubourg du Moustier et celui de Villebourbon.
Ah, d'accord, okay.
Quelle a été la période phare des hôtels particuliers ?
Alors, il y en a toujours eu, puisque l'hôtel particulier en fait existe depuis le Moyen-Âge. Sauf que pour Montauban, qui est une ville très reconstruite, on a principalement des hôtels du XVIIe siècle et du XVIIIe. Et quelques hôtels aussi du XIXe. Mais on va dire que vraiment les principaux, depuis la rue, ce qu'on peut voir ne serait-ce qu'en façade sans rentrer, principalement, si on doit choisir entre le XVIIe et le XVIIIe, plutôt au XVIIIe siècle.
D'accord. À qui sont destinés les hôtels particuliers ?
Alors, en les replaçant dans le contexte historique, ce sont les constructions de riches commerçants de la ville de Montauban, qui, en fait, de la bourgeoisie. Bonjour. Et donc c'est surtout voilà. Enfin, Montauban, c'était voilà pour Montauban, les hôtels particuliers, c'était surtout les domaines en fait de ces personnes-là qui s'étaient enrichies dans le commerce du drap, la confection de draps et les teintureries. Ensuite, une autre catégorie, plutôt les nobles, eux qui étaient en fait, donc c'était la noblesse de robe, hein, puisqu'on avait une cour des aides à Montauban, hein, donc des avocats, plusieurs voilà, avocats, juges et autres personnages de la noblesse de robe.
D'accord, merci. Quel est le but de votre ouvrage ?
Alors déjà, c'est d'ouvrir un peu les yeux sur ce patrimoine-là. Parce que Montauban, c'est pas seulement en fait la place nationale, hein, la cathédrale, c'est pas non plus seulement Bourdelle et Ingres, même si ça fait beaucoup de choses intéressantes à étudier. C'est un nouveau patrimoine méconnu, parce que c'est surtout eh bien une architecture privée. Donc forcément, c'est plus difficile d'en avoir un aperçu. Il faut pouvoir rentrer en contact avec des propriétaires d'aujourd'hui. Donc l'idée, c'était d'ouvrir ses portes, de montrer quelques-unes des plus belles cours, même si ça avait déjà été fait. Il y a d'autres ouvrages comme ça qui ont commencé à lever le voile sur ces intérieurs. Mais ça n'avait jamais été étudié en histoire de l'art, en fait. Voilà. Donc l'idée, c'est d'ouvrir les yeux sur ce patrimoine-là et peut-être aussi pour... pour sensibiliser les gens, voilà.
D'accord, merci.
Un mercredi à la Memo, c'est l'atelier CFM, CFM Radio.
Vous pourrez retrouver l'ouvrage de Sarah Gerber en librairie. Et pour les curieux, des visites d'hôtels particuliers sont aussi possibles avec l'Office de tourisme montalbanais. Pour les infos, c'est sur le site de la ville www.montauban.com.
Vous avez les gars avec vous ici présents, le directeur du Centre du patrimoine de Montauban.
Bonjour.
Je pense que vous devez avoir des questions pour Antoine Ripper.
Alors bonjour Monsieur Ripper.
Bonjour.
Alors tout d'abord j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est le CIAP et qu'est-ce qu'on y fait ?
Alors, comme Rémi le disait tout à l'heure, le CIAP désigne le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Alors, c'est un terme un peu long et un peu compliqué. On l'appelle le Centre du patrimoine pour faire plus court. C'est un espace à l'ancien collège pour découvrir l'histoire, l'architecture et le patrimoine de la ville. Nous organisons des expositions régulières. On a une exposition permanente qu'on peut voir toute l'année, quasiment tous les jours, puisque nous sommes ouverts 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 en saison. Il y a des expositions temporaires sur des thématiques particulières. On a travaillé sur les hôtels particuliers, sur la relation de la ville avec le Tarn, où on peut alors s'intéresser aux chantiers urbains, ou donc à la transformation de la ville, ou demander à des artistes de poser un regard sur la ville, un regard contemporain. On organise également des visites guidées, des ateliers pour le jeune public. On a toute une gamme de brochures, de dépliants qui sont disponibles au Centre du patrimoine ou à l'Office de tourisme. On travaille également sur l'inventaire du patrimoine. Sarah vous en a parlé. On s'attelle à la restauration du patrimoine des églises, donc des tableaux, des autels, des retables. Et puis, on s'amuse de temps en temps à la confection d'outils multimédia, mais je vous en reparlerai tout à l'heure.
Ah ben voilà, justement, on va en parler de cette application Montauban Comparé. Mais d'abord, un petit peu de musique, un petit jingle. Ils sont tellement sympas, les jingles réalisés par Raphaël et Hugo, pardon.
À la mémo, c'est l'atelier CFM Radio.
Late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear so maybe we could get down. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, to hold your body close. Take another step into the no man's land. For the longest time, lady, I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, oh, oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Oh, love is a blaze, I saw flames from the side of the stage. And the fire brigade comes in a couple of days. Until then we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out. I meant to drive home, but I drank all of it now. Not sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let let me know. Oh, 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 oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Oh, oh.
Ed Sheeran, c'est quoi le titre, Raphaël?
Je sais pas du tout, mais je l'entends.
Ah bah alors, Sing, ça s'appelle.
J'entends sur RTL.
Un jingle fait par Hugo et Raphaël, allez.
L'atelier CFM Radio à la mémo, c'est rigolo.
Clément.
Oui, alors juste avant on parlait d'application, et justement j'aimerais savoir quelle est cette application et à quoi sert-elle.
Alors c'est une application qui est disponible sur le site internet du Centre du Patrimoine. Alors, centredupatrimoine.montauban.com. Vous allez dans la rubrique multimédia et vous choisissez l'onglet Montauban comparé 1942-2012. Et une bonne partie de l'intérêt de l'application est déjà dans le titre. On a déjà la moitié de l'explication. Il s'agit en fait de comparer des vues aériennes de Montauban exactement identiques, superposées les unes aux autres. qui s'échelonnent entre 1942 et 2012. Donc vous avez le choix, en fait. Vous choisissez deux vues aériennes. Vous en avez plusieurs, 1942, 1950, 1968, 71, 81, 2000, 2005, 2010, 2012. Vous cochez deux dates. Et ensuite, vous pouvez, par transparence, en déplaçant un volet, passer d'une époque à l'autre, puisque les...
Comme
les...
s'il y avait un calque, comme ça, qu'on pouvait déplacer dessus.
C'est ça. Hein. Les deux photos sont exactement superposées, calquées l'une sur l'autre. Et l'intérêt, c'est finalement de découvrir, comme ça, les évolutions, les mutations de Montauban au fil des époques. Vous pouvez comparer, par exemple, l'esplanade des Fontaines en 2012. Et si vous cochez 1942... Eh bien, vous allez voir comment elle était et vous déplacez le curseur et vous voyez qu'au lieu de l'esplanade, vous aviez une halle au grain qui a disparu ensuite à la fin des années 60 et on a exactement l'emplacement de celle-ci. C'est un outil à la fois pour les techniciens parce que ça permet de voir concrètement l'évolution de la ville. Donc nous, historiens de Montauban, ça nous intéresse, mais également les aménageurs de la ville ou d'ailleurs peuvent comme ça voir les transformations réelles. Et puis c'est un outil pour tous les curieux qui veulent s'amuser finalement et découvrir un objet un peu magique pour voir les transformations de Montauban.
Vous envisagez d'en créer d'autres applications ?
Alors, c'est pas la première que nous avons. Nous avions déjà comme ça travaillé sur des vues aériennes de Montauban, des panoramiques à 360 degrés autour de plusieurs quartiers de la ville pour découvrir comme ça, comme un oiseau finalement, Montauban, vu du ciel. D'autres applications également, Montauban au bout des doigts, qu'on a développé il y a quelques années avec l'Office de tourisme, une application pour smartphone afin de découvrir le patrimoine de la ville sur son téléphone, et puis aussi de découvrir les offres d'hébergement, les restaurants, tout finalement ce qu'un touriste recherche quand il vient à Montauban.
Du coup, ça permet de voir... Si par exemple une ville était d'une telle taille en telle année, on peut voir, grâce à cette application, voir comment elle a augmenté, comment elle a été construite.
On peut voir la densité de la construction. Mais c'était le sujet d'avance. Hein. Il faut que tu écoutes, Raphaël. Il faut que tu écoutes. On avait changé de sujet déjà.
Mais c'est exactement ça. On voit, par exemple, entre 1942 et 2012, la progression de l'urbanisation de Montauban en direction de l'est. Ouais. Donc là où nous sommes aujourd'hui à la mémo, on voit bien que juste avant la Première Guerre mondiale et encore juste après la Seconde Guerre mondiale, on est à la campagne. Et on voit comment petit à petit la ville s'étend et grignote les champs et puis étend son emprise jusqu'à où nous sommes aujourd'hui.
Alors, une dernière question. Est-ce que l'arrivée d'applications comme celle-ci ne marque-t-elle pas une nouvelle ère dans la manière de visiter ?
Alors, oui. Je dirais oui et non. C'est un peu une réponse de Lyonnais. À la fois, les nouvelles technologies nous permettent de faire des choses qui sont extrêmement utiles et puis aussi amusantes, hein, de marier les deux. On a accès à des applications ou à presque des tours de passe-passe, hein, comme ça, pour donner à voir une ville qui a disparu, parce qu'on a aussi une application qui permet de comparer des cartes postales avec la vue d'aujourd'hui. Les vues sont superposées et on voit comme ça comment le paysage a changé. Alors ça, c'est extraordinaire de pouvoir voir en temps réel le changement. Et en même temps, on ne se passera jamais du plaisir de découvrir réellement un lieu, une ville, en marchant dans celle-ci, en la parcourant, en étant à l'intérieur. Une ville, elle est faite pour être vécue, elle est faite pour être expérimentée, et l'expérience de le visuel, toucher, ressentir, avoir l'ombre, le froid, le bruit, discourir également avec quelqu'un, un guide, hein, qui peut vous accompagner, vous donner des clés de lecture, eh ben ça remplacera jamais, ça sera jamais remplacé et supplanté par les nouvelles technologies. On a toujours besoin d'humains, et ça c'est pas prêt de disparaître.
Merci Antoine Réper, directeur du Centre du patrimoine de Montauban. Je rappelle que l'application en question que vous retrouvez sur Centre du patrimoine Montauban, CIAP-Montauban. S'intitule Montauban comparé, tout simplement. Mais quand on tape dans Google Montauban comparé CIAP, ça marche.
Oui, et on découvre une application qui a été développée par, c'est comme une belle collaboration entre la direction de l'aménagement du Grand Montauban et le Centre du patrimoine de la ville de Montauban. Donc vraiment, c'est l'alliance entre les services techniques finalement, l'ingénierie et puis l'histoire de l'art.
À à la mémo, c'est l'atelier CFM Radio.
Une petite musique pour quasiment finir, parce que je voudrais qu'ensuite, avec tous les jeunes, on se réunisse autour de ces micros pour échanger avec eux un peu sur leur impression à la fin de cette émission. À tout de suite.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look in self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me.
Sam Smith, c'était Stay With Me sur CFM.
L'atelier CFM Radio à la mémo, c'est rigolo.
Ça, c'était la voix d'Hugo et donc Raphaël se moque de lui. Non, c'est pas ça.
Ou
c'était
non, l'inverse. Je rigole.
C'était parce la voix d'Hugo ou je me trompe?
Ouais, non, mais c'est parce qu'elle passe pas très souvent. Elle passe pas très souvent. Hein.
Ah, tu trouves que la tienne, tes virgules sonores passent mieux?
La mienne, c'est la meilleure.
Ah, voilà. Alors, il y avait Raphaël et Hugo qui étaient à l'habillage sonore de cette émission. Je voudrais qu'on les applaudisse, tiens, parce qu'ils ont fait du bon boulot.
Merci.
Je voudrais qu'on en profite aussi pour applaudir Nolan, Olivia et Amine qui étaient sur le tout premier sujet sur les comptes bilingues et le reportage sur les comptes bilingues. Bravo.
Le reporter.
Fatoumata et Mathias, eux ont travaillé sur l'exposition du pôle mémoire et du musée de la résistance et du combattant. On les applaudit aussi.
Bravo.
Et Valentin et Clément sur le centre d'interprétation du patrimoine. Bravo également.
Bravo.
Voilà, bravo, bravo à tous, bravo à Aurélien à la technique, Abdoul et Charlotte, nos deux services civiques qui nous ont été indispensables aujourd'hui, à toute l'équipe aussi de la Mémo qui nous a accueillis et qui nous a accompagnés, qui nous a permis de faire cette émission aujourd'hui.
On te présente pas.
Bon, non, mais moi c'est pas la peine, tu sais, je parle à la radio tous les jours. Profites-en toi, tant que t'y es.
Mais pour ceux qui commencent comme moi là aujourd'hui.
Alors.
Tu t'appelles Rémi.
C'est ça. Tu veux m'applaudir aussi? Allez, on m'applaudit. Bon, allez, on se fait un petit tour de table. Les impressions de Nolan, c'était comment cette émission de radio?
Pas
Ça commence pas par moi.
Oui. Ah bah vas-y Raphaël.
Moi franchement j'étais dans mon élément parce que j'aime bien tout ce qui est technique et tout ça, ordinateur. Puis franchement c'était bien de tout organiser vu que on avait fait un stage où il fallait utiliser un système de montage de son et justement c'est ce système de montage de son qu'on a utilisé donc pour faire.
Tu sautes d'un stage à l'autre du coup ça marche bien. Amine, voilà. C'était cool pour toi ou quoi?
Ouais, au lieu de...
dans le micro.
Il faut que ça fasse.
Ben alors donne le micro à Clément si tu veux que ce soit Clément qui passe.
Ah merci.
Non mais comme ça il se concentre. Vas-y Clément.
J'ai trouvé ça super bien le fait de partager avec Valentin le travail. Moi j'ai écrit, lui il a monté le son qu'on a fait. Ça a été aussi l'un de mes tout premiers micro trottoirs. Alors je suis allé avec Valentin à l'ancien collège et on a visité un hôtel particulier. C'était la première fois que j'en visitais un et donc c'était vraiment bien.
Bon ben super, bonne expérience. Amine, vas-y, big up, allez, spéciale dédicace. Mais
on est parti regarder un conte, et c'est tout.
Eh bien, le concept était sympa, ouais. Bon après-midi avec tout le monde. Le micro-trottoir donc avec Sarah Gerber était sympathique aussi. C'est vrai que micro-trottoir, j'en avais fait un stage en troisième il y a 2 ans. C'est vrai que là, ça s'est bien mieux passé quand même. Là, j'étais plus à l'aise.
T'étais déjà à l'aise là.
Ah, la dernière fois, j'étais pas bien.
Olivia.
Oui.
Bah, t'as ton micro, toi. Vas-y, parle dans ton micro. Ça va?
Oui.
C'était cool?
Oui.
Tu sais que tu peux faire une phrase, hein?
Une
phrase.
Et enfin, Hugo. Ça va, Hugo?
Oui. Moi, je trouve ça génial d'avoir organisé une émission radio, surtout à la Mémo.
Toi, tu viens souvent à la Mémo, j'ai l'impression. Oui. C'est ton quartier, c'est ta deuxième maison un peu, hein? Hein, non?
Non, pas
ouais, parce que je te voyais à l'aise courir dans les escaliers, monter, descendre dans les ascenseurs.
C'est sa deuxième maison.
Bloquer l'ascenseur exprès tout à l'heure. Non, je blague.
Hugo.
Bon, ben merci. Merci Anne-Sara Laroche. Merci Bouchra El Sadi de nous avoir accueillis. C'était l'atelier radio de CFM à la Mémo. À la prochaine.
CFM R. radio.fr.
Ah oui, aussi cfmradio.fr. C'est vrai, Amine. Ouais, redis-le.
cfmradio.fr. Il a recopié.
Mais non.
Radio CFM, Normandie-Pyrénées.